Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de l'Institut suisse des droits comparés. Celui-ci porte sur l'avenir des partenariats enregistrés suite à l'introduction du mariage pour tous. Pendant cet enregistrement, nous mettrons en lumière une récente étude de droits comparés que nous avons effectuée sur le sujet dans 13 pays européens. Quelles sont les formes alternatives d'union, autres que le mariage, et comment est-elle impactée par l'extension du mariage aux couples de même sexe? En prime pour ce podcast, nous sommes rejoints par une invitée spéciale qui parlera des derniers développements en matière de mariage homosexuel en Suisse. Le débat est dirigé par M. John Curran, juriste à l'ISDC et responsable pour le droit anglais, qui a coordonné l'étude et rédigé le rapport sur l'Angleterre.
Bonjour. La Suisse reste l'un des derniers pays d'Europe occidentale dans lesquels les couples du même sexe ne peuvent pas se marier. Bien qu'ils puissent conclure un partenariat enregistré, celui-ci présente des différences par rapport à l'institution du mariage. Le 11 juin 2020, suite à une initiative parlementaire déposée en 2013, le Conseil national a été accepté un projet de loi qui ouvre le mariage à tous les couples, quel que soit le sexe. Il revient maintenant au Conseil des États de l'examiner. Dans ce podcast, nous analyserons comment les alternatives au mariage observées dans divers États d'Europe occidentale diffèrent ou ont différé du mariage et ce qui est arrivé aux autres formes d'union à la suite du mariage pour tous. Nous allons examiner quels sont les développements actuels en Suisse et se demander si elle peut s'inspirer de l'approche adoptée par d'autres pays. En 2018, le département fédéral de justice et police a demandé à l'Institut de réaliser une étude comparative sur le mariage pour tous, avec un accent particulier sur les différences entre le mariage et toute autre forme d'union prévue par la loi. L'étude a porté sur 13 pays d'Europe occidentale et a examiné ce qui était arrivé aux formes alternatives d'union au moment où le mariage a été étendu aux couples de même sexe. Trois collègues spécialisés dans un certain nombre de juridictions étudiées se joignent à moi pour ce podcast. Henrik Vestermark, responsable pour le droit scandinave à l'Institut, qui parlera de la Suède, du Danemark et de la Norvège. Johanna Fournier, responsable des juridictions germanophones, qui parlera de l'Allemagne et de l'Autriche. Et Andreas Klevczewski, responsable des juridictions du Benelux, qui parlera des différentes approches dans ces pays. J'ai également le grand plaisir d'accueillir notre invitée spéciale, Deborah Giannini-Nazzi, de l'OFJ à Berne. Madame Giannini-Nazzi a accompagné les travaux parlementaires sur le mariage pour tous et s'est amablement jointe à nous pour expliquer le dernier développement en Suisse. Et vous montrant de poser les questions, commenter les réponses et exposer brièvement la situation en Angleterre. Aujourd'hui, dans tous les pays représentés ici, le mariage a été étendu aux couples de même sexe. En fait, l'Italie était le seul pays de l'étude où le mariage n'est toujours pas ouvert aux couples homosexuels. Ma première question est donc la suivante. Avant que le mariage ne soit ouvert aux couples de même sexe, quelle forme d'union était possible et de manière générale, quels droits accordaient-ils par rapport à ceux dont jouissent les couples mariés? Henrik, quelle était la situation dans les pays scandinaves?
Concernant l'union formelle pour les couples du même sexe, c'est-à-dire le partenariat enregistré, la situation et le développement vers le mariage pour tous se ressemblent fortement dans ces trois pays, donc le Danemark, la Norvège et la Suède. Comment était la situation avant l'introduction du mariage pour tous? Comme mentionné, il y avait la possibilité pour les couples du même sexe d'entrer dans un partenariat enregistré. Le partenariat a d'abord été introduit au Danemark en 89, en Norvège en 93 et finalement en Suède en 94. Le Danemark est donc un précurseur, pas seulement en Scandinavie, mais souvent aussi reconnu comme le premier pays au monde ayant mis en place un véritable partenariat enregistré. L'idée derrière l'introduction du partenariat était d'avoir une équivalente fonctionnelle au mariage. En conséquence, les droits et les obligations étaient très similaires à ceux du mariage. La technique législative était d'avoir une courte loi avec des références aux règles applicables au mariage. Par exemple, la loi suédoise sur le partenariat enregistré chapitre 3, article 1, stipulait qu'un partenariat enregistré a les mêmes effets juridiques qu'un mariage, avec les exceptions précisées aux articles 2, 3 et 4. Les différences principales en comparaison avec le mariage étaient que les partenaires enregistrés n'avaient pas le droit d'adopter et ils ne pouvaient pas avoir accès à la procréation médicalement assistée. En outre, ils étaient obligés d'avoir un lien minimum avec le pays pour conclure une union. En Norvège, par exemple, la conclusion d'un partenariat était possible seulement si l'un des partenaires était norvégien ou, en absence de citoyenneté, devait résider en Norvège depuis au moins 2 ans. Obligation qui n'existait donc pas pour se marier. À noter également que certaines règles liées au mariage établissaient une différence de traitement à cause du sexe. Par exemple, la rente veuve, seulement en faveur de l'épouse en cas de décès de son mari. Toutefois, graduellement, au fil des années, de plus en plus de droits ont été acquis par les partenariats enregistrés. Par exemple, le même droit d'adopter a été introduit en 2003 en Suède, en 2009 en Norvège et en 2010 au Danemark. Finalement, au moment de l'introduction du mariage pour tous, les deux régimes étaient essentiellement égaux dans tous ces pays. Pour les couples de même sexe, il n'y avait pas d'autre union formelle dans les 3 pays que le partenariat enregistré, et seulement le mariage pour les couples de sexe différents. Toutefois, il y a certaines règles applicables aux personnes même sexe et sexe différents qui vivent ensemble en concubinage. Ces règles offrent alors une certaine protection liée au concubinage. Elle est toutefois très limitée et concerne par exemple le logement et le mobilier commun si la relation se termine, ou certains droits de succession. Au Danemark et en Suède, pour être considéré comme concubin, il est nécessaire que 2 personnes aient une relation similaire au mariage et que cette relation ait duré un certain temps. En Norvège, en revanche, un minimum de règles de protection s'applique également quand plusieurs adultes habitent ensemble, c'est-à-dire pour tout type de cohabitation.
Merci. Et pour les pays du Benelux, Anne-Grace?
Préalablement à l'ouverture du mariage à tous, les 3 pays du Benelux offraient déjà la possibilité de voir une union durable entre personnes même du même sexe reconnue par le droit. Tel était le cas à travers l'institution de la cohabitation légale en Belgique et le partenariat aux Pays-Bas et au Luxembourg. Ces institutions étaient, dès leur création, accessibles à tous les couples. Cela étant, elles ne constituent pas des alternatives parfaites au mariage. Notamment, autant la conclusion d'une telle union que la séparation sont beaucoup plus simples qu'en cas de mariage. La déclaration auprès des autorités suffit. Il n'y a aucune procédure à suivre. Si cela peut avoir ses avantages, la conséquence plus négative est, par exemple, l'absence d'éventuelles pensions alimentaires en cas de séparation. Ces unions se font et défont comme si elles n'avaient jamais existé, là où le mariage laisse nécessairement une trace sur la situation des ex-conjoints. Si elles sont moins contraignantes, ces institutions alternatives offrent par ailleurs des droits moindres que ceux du mariage. L'étendue de la différence qui existe varie d'un pays à l'autre. Aux Pays-Bas, elle est censée minime. En Belgique, elle pourrait être qualifiée de moyenne, notamment en cas de décès de l'un des partenaires. Le partenaire survivant ne bénéficie d'aucune protection, pas de réserve héréditaire, pas de droit à une pension de survie, alors que ces choses existent dans le cas du mariage. Enfin, au Luxembourg, la différence est grande. En cas d'adoption, le partenariat luxembourgeois ne permet même pas de postuler en tant que couple reconnu. Quoi qu'il en soit, en droit, les partenaires sont toujours libres de fixer le cadre de leur union dans un acte de partenariat. Les conditions de cet acte, le cas échéant, peuvent rapprocher leur union un peu plus du mariage, à tout le moins pour ce qui est des effets internes de leur union, le sort des biens, des charges, et ainsi de suite. Notons également que la Belgique et les Pays-Bas accordent, dans une certaine mesure, des conséquences à une cohabitation de fait, soit une cohabitation qui n'est pas déclarée auprès des autorités. En Belgique, il est notamment possible de conclure une convention de vie commune, même devant notaire, afin de régler les termes d'une union qui n'est ni un mariage ni une cohabitation légale.
Merci. Et en Allemagne et en Autriche, Johanna?
L'Allemagne et l'Autriche ont choisi des solutions différentes en ce qui concerne le partenariat enregistré. Alors qu'en Allemagne, il est désormais uniquement possible de contracter un mariage, en Autriche, les couples ont le choix entre le mariage et le partenariat enregistré. En Autriche, la Cour constitutionnelle avait jugé la distinction légale des couples du même sexe d'un côté, des couples de sexe différents de l'autre côté discriminatoire et donc en violation de la Constitution. Par conséquent, elle a modifié les lois pertinentes pour ouvrir le mariage ainsi que le partenariat enregistré à tous, avec effet dès la fin de l'année suivante. Le gouvernement aurait pu profiter de ce délai pour modifier la Constitution et, avec cela, éviter l'ouverture du mariage à tous. Toutefois, à défaut de la majorité nécessaire, la Constitution n'a pas été modifiée. Par conséquent, le mariage et le partenariat ont été ouverts à toutes les formes de couple, en vertu de la décision de la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne la séparation sur demande d'une des deux personnes, la loi protège le mariage. Alors qu'un partenaire peut demander la dissolution du partenariat après 3 ans de séparation, le juge ne prononce le divorce du couple marié de façon automatique, seulement s'ils sont séparés depuis déjà 6 ans. Avant, le juge maintiendra le mariage, entre autres, s'il est convaincu que la communauté de vie sera restaurée. En Allemagne, quelques petites différences se notent dans le contexte de la dissolution de l'union, notamment quant à la pension alimentaire. Cependant, la différence la plus marquante en Allemagne entre le partenariat enregistré et le mariage concerne la fondation d'une famille. Pour la filiation, seulement la femme qui accouche est considérée comme mère de l'enfant. Sa partenaire ne pourra être inscrite ni comme mère, ni comme père, ni comme autre parent. Pour obtenir l'autorité parentale de l'enfant, elle doit adopter l'enfant de sa partenaire. Par contre, en Autriche, la partenaire est inscrite comme parent. De plus, les couples en partenariat enregistré ne peuvent pas adopter un enfant conjointement. Ils sont obligés de procéder en 2 étapes. D'abord, l'un ou l'une des deux partenaires adopte l'enfant. Ensuite, l'autre partenaire adopte l'enfant de son ou sa partenaire. Finalement, contrairement aux couples mariés qui ont accès à la médecine reproductive, seulement les partenaires lesbiennes peuvent profiter d'un don de sperme. Les partenaires gays n'ont pas accès à la médecine reproductive. En résumé, nous pouvons donc dire que, avant l'ouverture du mariage à tous en Allemagne et en Autriche, le partenariat enregistré servait uniquement à harmoniser les unions des couples du même sexe avec le mariage. En Autriche, les deux régimes étaient en effet très largement égaux, à part des petites différences, surtout en ce qui concernait la dissolution de l'union. Par contre, en Allemagne, il était très difficilement possible de fonder une famille pour un couple en partenariat enregistré, autant par voie biologique que par adoption.
Merci beaucoup. En Angleterre, où le mariage a été étendu aux couples de même sexe en 2014, les partenariats enregistrés, ou partenariats civils, comme on dit là-bas, ont été pendant 10 ans la seule option pour les couples de même sexe. En fait, il s'agissait d'une forme d'union créée exclusivement pour les couples de même sexe, et les couples de sexe différents ne pouvaient pas conclure de partenariat civil. Au départ, les partenariats civils accordaient des droits plus faibles que le mariage dans certains domaines. Mais en 2014, ils ne se différenciaient plus, en gros, que par le nom. On peut donc constater que la situation dans un pays donné dépend généralement du but pour lequel des formes d'union alternative au mariage ont été conçues. Il existe, d'une manière générale, 2 approches. Premièrement, lorsque l'objectif politique était de reconnaître les relations entre personnes de même sexe comme largement équivalentes au mariage, mais où on ne considérait pas qu'il serait politiquement ou socialement acceptable d'étendre le mariage aux personnes de même sexe, les régimes de partenariat enregistrés, introduits, ont été créés pour être ce que l'on a appelé des équivalents fonctionnels du mariage. C'est ce qu'on voit dans les États scandinaves et qui a ensuite été introduit dans des pays comme l'Angleterre, l'Autriche et l'Allemagne. Une deuxième approche est celle observée dans les juridictions où l'autre forme d'union ne prétend pas être l'équivalent du mariage, mais constitue plutôt une alternative au mariage, avec des obligations différentes et, en général, avec des droits moins importants, parfois appelés partenariats faibles. Le PACS, ou Pacte civil de solidarité français, est peut-être l'exemple le plus connu, établi sous un régime entièrement distinct du mariage et qui offre une forme différente de relation juridique. C'est ce que l'on voit aussi au Luxembourg et en Belgique. En effet, ces institutions alternatives se caractérisent par le fait qu'elles sont ouvertes aux couples indépendamment de leur sexe, de sorte que les droits et obligations qui leur sont attribués sont expressément conçus pour être différents de ceux associés au mariage. On dit que cela offre une véritable alternative aux couples hétérosexuels qui ne souhaitent pas se marier, tout en renforçant la notion de mariage comme forme ultime d'union juridiquement reconnue. Il existe sans doute d'autres catégories de régimes juridiques couvertes par notre étude, sur lesquelles nous ne nous concentrons pas ici, comme les droits accordés aux couples dans les relations de facto, similaires au mariage au Portugal, et les relations domestiques dans les communautés autonomes d'Espagne. Les deux étaient ouvertes à tous les couples, quelle que soit leur sexualité. Je vous invite bien entendu à lire notre étude disponible sur le site internet de l'ISTC pour en savoir plus. Alors, au 1er janvier 2019, le mariage avait été étendu aux couples de même sexe dans chacun des pays examinés dans notre étude, à l'exception de l'Italie. J'aimerais maintenant demander à mes collègues ce qui constitue peut-être la question centrale de notre étude, c'est-à-dire ce qui est arrivé à cette autre forme d'union après l'introduction du mariage pour tous dans vos juridictions respectives. A-t-elle été abolie? A-t-elle été maintenue? Peut-être a-t-elle été ouverte aux couples de sexes différents alors qu'elle n'était auparavant accessible que aux couples de même sexe? Ou bien a-t-elle même été remplacée par une autre forme d'union? Henrik.
Le mariage pour tous a été introduit en 2009 en Norvège et en Suède et en 2015 au Danemark. Concernant les faits sur leurs lois respectives sur le partenariat enregistré, les trois pays ont choisi la même stratégie. Dès l'entrée en vigueur du mariage pour tous, il n'était plus possible de contracter un partenariat enregistré. Toutefois, les personnes qui sont déjà dans un partenariat peuvent choisir soit de le conserver, soit de le convertir en mariage. Concernant la conversion, on peut distinguer quelques différences en ce qui concerne la procédure. En Suède, par exemple, les partenaires souhaitant être mariés peuvent choisir soit de convertir leur partenariat par une demande jointe à l'autorité publique compétente, soit de se marier selon la nouvelle loi. Au Danemark, seule la première option, la conversion, est possible. Au contraire de la loi suédoise, le mariage au Danemark nécessite donc d'abord une annulation du partenariat. Dans les trois pays, l'introduction du mariage pour tous a été fortement soutenue par la population et par une majorité des partis politiques. Toutefois, la réforme a été sujette à quelques débats, surtout dans les milieux religieux. Pour le contexte, il faut mentionner que dans les trois pays, les droits de célébrer des cérémonies de mariage peuvent être octroyés aux communautés religieuses. Un mariage peut donc être conclu soit par une procédure civile, soit une procédure religieuse. Mais finalement, autre que les églises étatiques ou quasi-étatiques, très peu de communautés religieuses effectuent des mariages de même sexe. Pour conclure, dans les trois pays, le mariage reste aujourd'hui la seule option pour des couples souhaitant conclure une union formelle. Cela vaut donc tant pour les couples de même sexe que pour les couples de sexe différent.
Merci. Et Anne-Grace?
Le mariage pour tous a été introduit d'abord aux Pays-Bas, en 2001, puis en Belgique en 2003, et plus récemment seulement au Luxembourg, en 2014. Dans un quart de ces trois pays, cette introduction n'a amené de suppression des institutions alternatives. Elles subsistent. Ainsi, aux Pays-Bas subsistent le mariage et le partenariat, alors même que les deux institutions sont fort similaires et à présent toutes deux ouvertes à tous les couples.
Merci. Et Johanna?
L'Allemagne et l'Autriche ont choisi des solutions différentes en ce qui concerne le partenariat enregistré. Alors qu'en Allemagne, il est désormais uniquement possible de contracter un mariage, en Autriche, les couples ont le choix entre le mariage et le partenariat enregistré. En Autriche, la Cour constitutionnelle avait jugé le partenariat enregistré discriminatoire et donc en violation de la Constitution. Par conséquent, elle a lancé un ultimatum au gouvernement autrichien de soit modifier la Constitution, soit d'ouvrir le mariage et le partenariat enregistré à tous. À défaut de majorité nécessaire, le gouvernement a alors ouvert le mariage et le partenariat à toutes les formes de couples. Par conséquent, les couples de sexe différents ainsi que les couples du même sexe peuvent choisir entre le mariage et le partenariat enregistré. Bien que ces deux régimes se distinguent en fait seulement en ce qui concerne la dissolution et la terminologie, beaucoup de couples ont choisi le partenariat enregistré depuis. Il s'agit pour la plupart de couples de sexe différents. Il est également possible de convertir un partenariat existant en mariage ainsi qu'un mariage existant en partenariat sans devoir dissoudre l'ancienne union d'abord. Cela étant, ceci n'est pas encore prévu par la loi, mais a seulement été réglé au niveau interne de l'administration. En Allemagne, l'initiative d'ouvrir le mariage à tous venait de l'opposition parlementaire. Celle-ci avait réussi en juste quelques jours à créer beaucoup de pression politique et médiatique. Ainsi, elle en a fait un thème électoral et a forcé les partis politiques à prendre position. Le Parlement a donc voté sur ce sujet au dernier moment avant la pause d'été, dans un vote libre. Le mariage est donc désormais ouvert aux couples de sexe différents ainsi qu'aux couples du même sexe et il n'est plus possible de conclure un partenariat enregistré. Les couples en partenariat peuvent choisir s'ils veulent continuer leur partenariat ou bien le convertir en mariage sans devoir dissoudre le partenariat avant. L'ouverture du mariage à tous a suspendu une partie de l'inégalité de traitement, notamment en ce qui concerne l'adoption. Il est désormais possible aux couples du même sexe d'adopter un enfant conjointement sans devoir procéder en deux étapes. Cependant, les règles sur la filiation n'ont pas été modifiées. L'épouse de la mère biologique d'un enfant obtiendra l'autorité parentale seulement en passant par une adoption. Un projet de loi pour modifier ceci est en train d'être discuté actuellement. En résumé, l'Allemagne et l'Autriche partaient d'une situation initiale comparable avec un partenariat enregistré uniquement ouvert aux couples du même sexe. Quand même, ils ont choisi des solutions très différentes lors de l'ouverture du mariage à tous. Alors que le partenariat continue à exister en Autriche, a été ouvert à tous comme le mariage, il n'est plus possible de conclure un partenariat enregistré en Allemagne.
Merci. Et en Angleterre, lorsque le mariage a été ouvert aux couples de même sexe en 2014, la législation sur le partenariat civil n'a pas été abrogée. Cela signifiait que les couples de même sexe avaient deux options. En plus de pouvoir se marier, ils avaient toujours le choix de conclure à la place un partenariat civil. Les couples de sexe différents, en revanche, ne pouvaient que se marier. S'en est suivi une situation particulière en 2018 d'un couple hétérosexuel qui a saisi la Cour suprême pour revendiquer l'égalité de leurs droits avec les couples de même sexe dans le cadre de partenariats civils. Finalement, en 2019, le gouvernement a décidé de rendre le partenariat civil également accessible aux couples de sexe différents. Et les premiers partenariats civils entre personnes de sexe différent ont eu lieu cette année. Ainsi, le sort des formes existantes d'union lors de l'introduction du mariage pour tous se divise en deux catégories. Premièrement, l'abolition de cet autre régime, mettant ainsi fin à la formation de toute future union de ce type. Et deuxièmement, son maintien, ce qui est arrivé à l'autre forme ou aux autres formes d'union au moment où le mariage a été ouvert aux couples de même sexe, sans dépendre principalement du but poursuivi par cette autre forme d'union. Dans les juridictions où l'autre union constituait un équivalent fonctionnel du mariage, avec des droits et obligations largement identiques à ceux des couples mariés, cette autre forme d'union a naturellement été considérée comme n'ayant plus d'utilité particulière. Une fois que le mariage a été étendu aux couples de même sexe, il n'était plus nécessaire qu'elle existe. C'était le cas en Allemagne et dans les pays scandinaves, où les lois prévoyant des partenariats enregistrés ont été abrogées en conséquence. Le mariage est donc resté comme la seule option disponible pour les couples souhaitant officialiser leur relation. Dans la deuxième catégorie, la reconnaissance d'une forme d'union autre que le mariage n'a pas été uniquement motivée par le désir de permettre aux couples de même sexe de formaliser leur relation. Ce régime normalement distinct pour les relations entre adultes est, au contraire, ouvert à tous les couples et a pour but de fournir une alternative au mariage pour les couples de sexes différents, ainsi qu'offrir un moyen aux couples de même sexe d'obtenir une reconnaissance juridique. Positionné à un niveau inférieur au mariage en ce qui concerne les droits qu'il confère, à l'exception peut-être des Pays-Bas, le statut et le maintien de cette forme d'union n'ont pas été affectés par l'extension du mariage aux partenaires de même sexe dans ces pays. Au lieu de cela, il reste désormais une alternative au mariage pour tous les couples, quel que soit leur sexe. Mais qu'en est-il des pays comme l'Autriche et l'Angleterre où cette forme d'alternative d'union n'a pas été abolie? En effet, les partenariats enregistrés, bien qu'ils offrent des droits essentiellement identiques au mariage, ont non seulement été maintenus, mais ont été ouverts aux couples de sexes différents. Pourquoi donc? Tout d'abord, on peut voir que le sort de l'autre forme d'union dans ces deux juridictions n'a pas été abordé dans le cadre d'une stratégie politique. En Autriche, il était le résultat d'une décision judiciaire, et en Angleterre, les partenariats civils ont été étendus aux couples de sexes différents a posteriori parce que le mariage pour tous avait été rapidement promulgué sans avoir consacré le temps à la question de l'avenir des partenariats civils. Deuxièmement, bien que ces partenariats civils ne soient pas un partenariat faible au même titre qu'un Pax français, ils présentent un intérêt aux couples indépendamment de leur sexe, qui, pour quelque raison que ce soit, souhaitent formaliser leur relation en dehors du mariage. Qu'il s'agisse d'un rejet du mariage en tant qu'institution, d'une aversion pour ses conséquences ou d'un désir de profiter des formalités plus simples d'un partenariat enregistré. Une telle forme d'union offre un choix. Alors, quelle est la situation actuelle en Suisse? Eh bien, j'ai le grand plaisir de présenter Deborah Giannenazzi de l'OFJ à Berne, qui a accompagné les travaux de la Commission des affaires juridiques du Conseil national en lien avec l'élaboration du projet de loi actuellement discuté par le Parlement. Madame Giannenazzi, pourriez-vous commencer par expliquer brièvement, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, quelle forme d'union existe en Suisse et, de manière générale, quelles sont les différences avec le mariage en termes de droits et d'obligations?
En Suisse, les couples qui souhaitent donner un cadre juridique à leur union ont deux possibilités. S'il s'agit d'un couple hétérosexuel, il peut se marier. S'il s'agit d'un couple homosexuel, il peut conclure un partenariat enregistré. Le partenariat enregistré a été instauré en 2007 comme pendant au mariage pour les couples de même sexe. Comme les époux, les partenaires se doivent mutuellement assistance et peuvent choisir un nom de famille commun. Un partenaire ne peut vendre ou résilier le bail de l'appartement commun qu'avec le consentement de l'autre. Et si un partenaire décède, l'autre est son héritier légal, bénéficie de la réserve et peut recevoir une rente de survivant. Enfin, en cas de dissolution du partenariat enregistré, l'on procède, comme en cas de divorce, au splitting de l'AVS et au partage de la prévoyance professionnelle. Et un partenaire peut être tenu de verser à l'autre une contribution d'entretien. Quelles sont les principales différences entre partenariat enregistré et mariage? Le régime ordinaire des biens n'est pas celui de la participation aux acquis comme dans le mariage, mais la séparation des biens. Et le partenaire d'un citoyen suisse n'a pas le droit à la naturalisation facilitée, contrairement au conjoint. La différence la plus marquante porte sur la filiation. L'adoption d'un enfant et le recours à la procréation médicalement assistée sont explicitement interdits. En matière d'adoption, il y a toutefois eu une évolution. Depuis le 1er janvier 2018, l'adoption de l'enfant du partenaire est en effet permise. L'adoption conjointe demeure en revanche réservée aux couples mariés et donc hétérosexuels.
Et donc, j'ai cru comprendre qu'une initiative parlementaire a été lancée en 2013 pour ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et nous expliquer la situation actuelle de ce projet?
Oui, le 5 décembre 2013, le groupe Vert libéral a déposé l'initiative parlementaire « Mariage civil pour tous » qui demandait la modification de l'article 14 de la Constitution pour ouvrir le mariage à tous les couples. Puisqu'il a été décidé de donner suite à l'initiative, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a été chargée de formuler des propositions concrètes. La première question qui s'est posée était celle de savoir si pour ouvrir le mariage, il est vraiment nécessaire de modifier la Constitution. Or, se basant sur un avis de droit de l'Office fédéral de la justice, selon lequel l'article 14 n'empêche pas le législateur fédéral, c'est-à-dire le Parlement, d'ouvrir l'institution du mariage aux personnes de même sexe, la Commission a d'abord décidé d'opter pour une révision législative. Ensuite, elle a décidé de procéder à une révision par étapes et de se limiter donc, dans un premier temps, à régler les points indispensables pour que le mariage pour tous puisse devenir rapidement la réalité. La discussion sur d'autres modifications, concernant par exemple l'accès à la procréation médicalement assistée ou sur l'introduction d'un PACS en Suisse, a été reportée à plus tard, pour ne pas ralentir et alourdir le projet avec le risque de le mettre en danger. Le 30 août 2019, la Commission a donc adopté un projet dit « central ». Ce projet prévoit en premier lieu la modification des dispositions du droit matrimonial pour que l'accès au mariage ne soit plus réservé à un homme et une femme, mais soit ouvert aussi à deux personnes de même sexe. De plus, les couples liés par un partenariat enregistré pourront le convertir en mariage. Est-ce que cela implique que le champ d'application des dispositions légales qui fondent des droits sur l'existence d'un mariage sera automatiquement étendu aux couples homosexuels? Oui, certainement là où le droit en vigueur reconnaît déjà aux partenaires enregistrés les mêmes droits qu'aux époux. La situation est en revanche plus compliquée lorsque le droit en vigueur prévoit des règles différentes pour le mariage et le partenariat enregistré, comme c'est le cas pour la nationalité ou l'adoption conjointe que j'ai déjà citée, ou lorsque le droit en vigueur subordonne des droits à la condition que les époux soient de sexe différent, comme c'est le cas pour l'accès à la procréation médicalement assistée. Quels sont alors les effets du projet central de la Commission dans ce domaine? Pour ce qui concerne la nationalité, le rapport de la Commission précise que même sans modifier la loi sur la nationalité, l'ouverture du mariage permettra aux époux de même sexe de bénéficier de la procédure de naturalisation facilitée. Il en va de même pour l'adoption conjointe. Même sans modifier le Code civil, l'ouverture du mariage permettra aux époux de même sexe d'accéder à la procédure d'adoption conjointe. Le projet de la Commission ne traite en revanche pas la question de l'accès à la procréation médicalement assistée, qui reste donc réservée aux couples hétérosexuels. Ce projet a été débattu le 11 juin 2020 par le Conseil national, qui non seulement l'a accepté, mais l'a complété. Partant de l'idée qu'une modification de la Constitution n'est pas nécessaire pour ouvrir aux couples de même sexe l'accès à la procréation médicalement assistée, le Conseil national a notamment adopté des modifications du Code civil qui permettront aux couples de femmes mariées d'accéder aux dons de sperme. Il s'agit d'un complément très significatif et controversé. Actuellement, le projet est examiné par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, qui a décidé de procéder dans un premier temps à une audition d'experts. La Commission souhaite vérifier la constitutionnalité du projet en général et plus en particulier en relation avec les thèmes de l'adoption conjointe et de la procréation médicalement assistée. Elle se prononcera par la suite en novembre sur l'entrée en matière et sur le projet en détail. Il est donc possible que le Conseil des États traite le projet pendant la session d'hiver en décembre.
Vous avez maintenant entendu la variété des approches adoptées dans d'autres juridictions européennes en ce qui concerne l'avenir des partenariats enregistrés et d'autres formes d'union après l'introduction du mariage pour tous. Qu'est-ce qui est proposé pour l'avenir du partenariat enregistré en Suisse? Va-t-il suivre le modèle allemand et simplement abolir les partenariats, ou il est prévu qu'ils soient conservés et peut-être de les ouvrir aux couples de sexes différents?
Il est probable que la Suisse suivra l'exemple allemand. D'après le projet de la Commission accepté par le Conseil national, une fois le mariage ouvert à tous les couples, il ne sera plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés. Pourquoi? Parce que le partenariat enregistré suisse est un partenariat fort qui a été institué comme pendant un mariage pour les couples de même sexe. Il n'aura donc plus de raison d'être si le mariage s'ouvre à tous. Mais la question de savoir si le législateur suisse souhaite introduire en plus du mariage un partenariat faible sur le modèle du Pax français reste ouverte et sera traitée par le Parlement ultérieurement. Le Conseil national a transmis en 2016 deux postulats qui chargent le Conseil fédéral d'examiner l'opportunité d'instituer un Pax en Suisse pour couples de même sexe ou de sexe différent. De son côté, le Conseil des États a transmis un postulat qui charge le Conseil fédéral d'exposer dans un rapport les différentes définitions et les différents effets du concubinage en droit actuel. L'élaboration de ces rapports a été confiée à l'OFJ qui a décidé de les traiter ensemble. L'état des lieux au sujet des effets du concubinage dans le droit actuel pourra en effet servir de base pour la réflexion sur l'opportunité d'un Pax en Suisse. Le dernier mot sur ce thème n'a donc pas encore été dit.
Nous allons donc devoir attendre pour voir la suite en Suisse. Est-ce que le mariage sera bientôt ouvert à tous les couples en Suisse? Est-ce qu'une nouvelle institution juridique distincte du mariage sera créée? Quel que soit l'avenir, j'ai personnellement trouvé fascinant de voir la variété des approches adoptées sur ce sujet extrêmement important, même par une si petite sélection de pays d'Europe occidentale. J'espère que notre étude a fourni et apportera une contribution utile au débat ici en Suisse. Merci pour votre temps, Madame Giannazzi, et merci à tous mes collègues d'avoir participé à ce podcast. Je vous remercie de nous avoir écoutés.